Bonjour et bienvenue dans Prosopopée. Une fois par mois, je vous ferai découvrir ou redécouvrir des grands auteurs de la littérature. Du grand Zola à Boris Vian, en passant par Brassens ou Neruda. Et commençons tout de suite le voyage. N'en déplaise à Victor Hugo, Paul Éluard ou ce bon vieux Marcel Proust, nous délaissons les grands auteurs, comme le dit si bien l'expression, pour nous intéresser aujourd'hui à la part cachée de la littérature, les femmes. Les femmes auteurs, autrices, écrivaines, disons plutôt les femmes de lettres. Tantôt haïes, redoutées, censurées, dénigrées ou tout simplement oubliées, elles occupent aujourd'hui une place importante et respectée, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour illustrer ce propos, je vais m'appuyer sur le spectacle que nous avons créé avec la Compagnie de l'Heure Bleue en 2015 pour le Festival d'Avignon, qui s'intitulait justement « Femmes de lettres ». Jouant sur l'homophonie, car nous entendons « lettres » comme la lettre manuscrite, la lettre majuscule. Mais nous avons choisi de l'écrire comme « l'être humain », afin de faire ressortir et ressentir la sensation, les émotions face à cette littérature. Petite subtilité empruntée au poète contemporain Henri Méchonique, mais lui parlait des hommes de lettres. La genèse de ce spectacle est partie d'un constat. Un constat simple. Les femmes auteurs sont en sous-effectif dans nos bibliothèques respectives. Trop peu reconnues, trop peu entendues, nous tenions à leur rendre la place qu'elles méritent. Il ne s'agissait pas du devant de la scène, il s'agissait de toute la scène. Nous avons choisi du côté des grandes, des monuments comme Georges Sand ou Marguerite Duras, mais aussi du côté des moins connues, des inconnues, des innovantes, des torturées, des sensuelles, des voyageuses. Notre démarche a été féministe, évidemment, mais surtout littéraire, analytique, technique. Que la femme ne reste pas cantonnée au cliché de sensiblerie que l'on veut bien lui accorder. Nous voulions montrer que le débat féministe peut prendre une autre couleur et démontrer que les femmes sont capables de parler gastronomie, sexualité, voiture, voyage, et surtout vous faire découvrir ces textes. Je me suis trop longtemps demandé comment présenter cette émission pour que l'on comprenne bien, qu'on les entende vraiment. À grand terme, grand thème, n'est-ce pas? Mais je n'avais pas envie de cloisonner encore ces femmes dans des sous-titres, des titres, thèses, antithèses, synthèses. J'ai donc choisi de suivre tout simplement la trame du spectacle, ses personnages, ses sensations, ses couleurs. Vous faire découvrir, à la manière d'un spectateur omniscient, l'identité de ces femmes de lettres. Bon voyage. Le rideau s'ouvre. Dans la pénombre, trois silhouettes immobiles. La première, debout, derrière une chaise, la tenant fermement. La seconde, assise. Et la troisième, par terre, à ses pieds. La reine Yacentawa, Sojourner Truth et Calamity Jane se rencontrent pour la première fois. La reine Yacentawa est la première à prendre la parole. Dernière reine de l'Empire des Ashanti, elle mènera son peuple à la bataille contre la colonisation britannique. Je vois que certains d'entre vous ont peur de se battre pour notre roi. Autant d'Osai Tutu, d'Okomfo Anoki, d'Opukuwar I. Les chefs ne seraient pas restés assis à regarder leur roi, être exilés, sans tirer un seul coup de feu. Aucun Européen n'aurait osé parler au chef d'Ashanti comme le gouverneur vous a parlé ce matin. C'est donc vrai que le courage d'Ashanti n'est plus? Je ne peux pas le croire. Ça ne peut être vrai. Je dois vous dire ceci. Si les hommes d'Ashanti ne vont pas au front, nous le ferons. Nous, les femmes, nous le ferons. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Sojourner Truth est la deuxième à parler. Elle naît en 1797 et meurt en 1883. Ce fut une militante, une oratrice, une pédagogue. Elle joua un rôle important dans la lutte des Afro-Américains pour l'abolition de l'esclavage, mais aussi pour le droit des femmes et la liberté de culte. Le discours que nous allons entendre s'intitule « Mais ne suis-je pas une femme ?» Ce monsieur là-bas dit que les femmes ont besoin d'être aidées pour porter et d'être soutenues pour traverser les fossés et d'avoir toujours les meilleures places partout. Personne ne m'a jamais aidée pour porter mes charges ou soutenue au-dessus des troupes boueux ou ne m'a donné de meilleures places. Ne suis-je pas une femme ? Regardez-moi, regardez mes bras, j'ai labouré, planté et couché dans les granges et aucun homme ne m'était supérieur. Mais ne suis-je pas une femme ? Je pouvais travailler et manger autant qu'un homme quand j'avais de quoi, et supporter le fouet aussi. Mais ne suis-je pas une femme ? J'ai enfanté 13 fois, vu la plupart de mes enfants vendus comme esclaves, et quand je pleurais mon chagrin de mère, personne sauf Jésus ne l'entendait. Ne suis-je pas une femme alors ? Puis, ils ont parlé du truc dans la tête. Comment ils disent déjà ? L'intellect. Ah, c'est ça mon chou. Qu'est-ce que ça a à voir avec le droit des femmes ou le droit des noirs ? Et puis, ce petit monsieur en noir, là, a dit que les femmes ne pouvaient pas avoir autant de droits que les hommes, parce que Dieu n'était pas une femme. Mais d'où donc est sorti votre Christ ? Dites-moi alors d'où est sorti votre Christ, de Dieu et d'une femme ? Les hommes n'ont rien à voir là-dedans. Si la femme que Dieu créa était assez forte pour retourner le monde sans dessus-dessous, ces femmes ensemble seront alors capables de revenir en arrière et de tout remettre à l'endroit de nouveau. Et maintenant qu'elles le demandent, les hommes feraient bien de les laisser faire. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, la vieille Sojourner n'a plus rien à ajouter. La pénombre s'obscurcit. La dernière est la plus connue. Martha Jane Canary, ou plutôt Calamity Jane. Légende du Far West. Elle naît en 1852 et meurt en 1903. La seule femme ayant jamais conduit la diligence du Pony Express, buveuse, joueuse et sachant manier colt et carabine. Préférant le costume d'homme au jupon, elle est la cavalière la plus insouciante et l'une des meilleures gâchettes de l'Ouest. Assise devant son feu de camp, nous allons découvrir une lettre destinée à sa fille. Il y a quelque temps, je suis allée à Cheyenne par la diligence et j'ai passé des moments palpitants. La diligence était conduite par Luc Voriz. C'était un parent de Clark. Nous avons eu une conversation. Il était si intéressé par l'époque où ton père et moi étions allés à cheval d'Abilene à Deadwood Gulch. Nous avions passé toute la nuit au vieux poste de Virginia Dell. Je portais des pantalons d'homme et me faisais passer pour l'associé de Wild Bill, le Jack of Diamond, le valet de carreau. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus, et pour sûr, ça m'a donné la grosse tête. Puis le conducteur remplaçant a été tué, j'ai pris sa place. Tout le monde a blâmé les Indiens, mais c'est des hommes blancs qui étaient les auteurs de la tuerie et du meurtre, et qui ont volé la poudre d'or aux garçons. Après la tuerie, ton père m'a mis au défi de conduire la diligence pour ce voyage. Je l'ai fait, et je me suis trouvée dans un sacré pétrin, Janie. Les hors-la-loi étaient à mes trousses. Le jour baissait et je savais qu'il fallait faire quelque chose. J'ai donc sauté du siège du conducteur sur le cheval le plus proche, puis sur mon cheval de selle qui était attaché sur le côté, et j'ai rejoint les hors-la-loi dans l'obscurité. Ton père arrivait derrière sans que je puisse le voir dans l'ombre, mais après avoir arpenté la voiture et ne pas y avoir trouvé de passagers, mais des monceaux de poudre d'or, ils ont perdu toute prudence. Ton père et moi, nous avons eu toute la bande. Il y en avait 8 et bien sûr, il a fallu les abattre. Car il ne voulait pas céder. Ton père en a compté 3 qui avaient les bras droits transpercés et il m'a dit « C'est ton travail, Jane. Tu ne vises jamais pour tuer. » Les 5 autres, il a tiré pour les tuer. Il n'a jamais paru gêné de tuer, mais moi, si. Je n'ai encore jamais tué personne, mais j'aimerais cogner sur la tête de certaines femmes de Deadwood. Il n'y a qu'une femme dans ce tas de vermine, c'est Mrs. Bander. Deadwood est plein de vermine, mais Mrs. Bander est différente. J'espère qu'un jour tu pourras venir dans ce pays. Tu sauras alors comment j'ai dû exister. Je hais les femmes d'ici. La majorité d'entre elles n'est pas meilleure que moi, mais elles traversent la rue plutôt que de me parler ou de me croiser. Si seulement elles savaient ce que je sais, que leur père rigolait en faisant une encoche à leur fusil chaque fois qu'une autre de leurs filles venait de se marier. Ça leur ferait seulement mal d'avouer qu'un autre bâtard était en fabrication. Et ces mêmes salopes me montrent du doigt en m'appelant Jane Hickok. Un ricanement sur leur figure de coyote. Si j'étais un homme, il me suffirait de leur flairer une seule fois les aisselles pour en être dégoûté. J'espère, si tu viens jamais par ici, que tu iras voir certaines de ces vermines, si elles sont encore de ce monde, et que tu leur donneras une foutue bonne correction aux mémoires de ta vieille mère. Quand je veux un verre de vin ou de whisky, je passe les portes d'un saloon et je le prends. Mais ces saletés de vermines se cachent derrière les portes pour boire et n'hésitent pas à s'agripper aux hommes mariés. Peut-être que je ferais mieux de m'arrêter avant d'en dire trop. Mon écriture s'empire à chaque fois. Je me demande souvent dans quelles mains ces pages finiront par tomber. Je veux croire que tu seras cette personne un jour après que je serai partie. Je l'espère, car c'est toi que j'aime, Janie. Il ne me reste plus personne sur terre à part toi. Je médite dans une couverture auprès de mon feu de camp, guettant loups et coyotes. Mes chevaux veillent tout proche et je m'endors en priant Dieu de me laisser vivre assez longtemps pour te revoir encore une fois. Ta mère, Jane Hickok. Les trois silhouettes disparaissent et laissent place à une femme seule, vêtue d'un grand manteau de laine, portant à la main une toute petite valise. C'est Elsa Triolet, ou plutôt le personnage de son roman, Le Rossignol se tait à l'aube. Elle dépose sa valise. La scène se transforme alors en quai de gare. Elle attend le train pour une direction encore inconnue. Cette voix, je la rêve. Elle vient du fond des âges, disparaît, je l'oublie. Je saute d'un train comme tous les soirs. C'est une petite gare. Rares sont les passagers qui y descendent. Le train marque à peine un temps d'arrêt. Je traverse la voie avant qu'on ait levé le bras du passage à niveau. Et comme chaque soir, c'est le bonheur frais de l'air, du calme dans le jour qui s'amenuise, se ternit, et la ville disparaît avec le train, les derniers brinque-ballements des derniers wagons. Je m'en vais par un sentier forestier, foulant les herbes, une éponge parfumée m'essuie le cou, le visage, les mains. J'ai la bouche pleine de menthe. Derrière moi, travail machinal, vieux papiers, dossiers, tampons, timbres, des encriers en nos jours de machines à écrire électriques et de dictaphones. Tout à l'heure, j'ai lancé un encrier à la tête du patron, comme Luther à la tête du diable. Je suis vidée, chers parents. Je vais vous porter la bonne nouvelle au bout de ce sentier où il y a une maison forestière, la nôtre. J'ai une chambre en ville. Je n'y couche plus depuis que quelqu'un écrit sur ma porte au-dessus de la sonnette « Putain ». Ça doit être le concierge. Il trouve qu'il y a trop d'hommes qui montent chez moi. Je ne suis pas une putain, mon Dieu, bien qu'il y ait trop d'hommes qui montent chez moi. Quand ma mère a téléphoné d'amener une infirmière et à peine avais-je raccroché à retéléphoner pour me dire de ne rien faire, le concierge m'a regardé drôlement. Oui, je téléphone de la loge, je n'ai pas de téléphone chez moi. Comme pour me dire, c'est tout l'effet que cela te fait, tu ne comprends pas que ton père, il est mort. Aucun effet en vérité. Je ne m'arrêtais à aucune idée précise. Je n'avais pas l'intention de chercher une infirmière. Je ne me demandais pas ce que tout cela signifiait. Je n'avais pas de cœur. Je sentais bien que je n'en avais pas. Mes pères et mères s'occupaient de moi, mais je ne leur étais pas sympathique. Je n'en savais rien. Je croyais ne rien en savoir. Je savais. Le concierge, c'était certainement lui qui a écrit sur ma porte au-dessus de la sonnette « Putain ». Le regard qu'il m'a jeté. « Ne t'occupe plus de l'infirmière, c'est inutile. » Je le lui répète et il me regarde. « Pauvre fille, tu n'es même pas stupide au point de ne pas comprendre qu'il est mort, ton père. Mort !» Et il a écrit au-dessus de ma sonnette « Putain !» Je marchais sur le sentier forestier. Personne n'a jamais eu pareil plaisir d'un sentier, d'une forêt. Moi, l'orpheline, la putain, j'avais droit à cette sorte-là de bonheur. Je n'y arrivais pas à la maison forestière. Plus j'avançais, plus elle s'éloignait. La nuit était totale. Je marchais toujours, de la mousse sous les pieds. Je ne pouvais pas la voir, mais je savais que je n'avais sous les pieds qu'une mousse verte, vert aniline, vert poison. Et je ne voulais pas arriver à cette maison vide. Je pourrais y crier, me mettre nue dans son jardin forestier illimité. Personne ! Les arbres hocheraient la tête selon le vent, et le rossignol chanterait pour moi seul. Des herbes me chatouillent les pieds et je ris. Je ris. Si je vous parle des yeux d'Elsa, cela vous dit quelque chose ? Elsa Triolet n'est autre que l'épouse de Louis Aragon, couple mythique. Elsa Triolet ou Ella Yurevna Kagan. Elle n'est pas qu'une femme de lettres, c'est une femme engagée dans la politique et la résistance. Elle apprend très vite le français et déménage à Paris, où elle fréquentera les plus beaux milieux intellectuels. Passionnée par l'architecture, la poésie, elle rencontrera le poète futuriste Vladimir Maïakovski ou encore Maxime Gorki, le pape de la littérature révolutionnaire, qui encouragera la jeune femme à se consacrer à l'écriture.
Un paquet de Gaulois, s'il vous plaît.
En parlant des milieux intellectuels parisiens, Saint-Germain, le café de Flore, les deux Magots. Une terrasse de café s'est installée sur la Seine. Une femme en premier plan, enceinte, rayonne. Une autre est derrière, plus discrète, son verre à la main. Cette femme en retrait, vous la connaissez tous, pour son style azimuté, son côté punk, sa manière de parler.
Rue Saint-Louis en Lille, il y a la mer. Rue Saint-Louis en Lille, forever. Façade fragile, petit bar, japonais, gracile. Et gros lard, en été c'est ombre et cagnard, Baudelaire sombre et Mozart, poison, confiture, Hermann, oiseau d'aventure.
Je crois qu'il est nullement besoin de vous présenter Brigitte Fontaine. Connue pour ses chansons, elle s'illustre également dans la littérature. Elle a écrit un recueil qui s'intitule « Les nouvelles de l'exil » et qui raconte, comme elle le dit, un petit arc-en-ciel, des histoires courtes, des moments que vivent ces gens, Arsinoé, Noémie, Hugo et les autres. Même une mouche, en exil elle aussi, des choses qui arrivent dans la vie, ou dans les délires d'une gaieté sans raison, d'une angoisse bien normale, d'une mauvaise foi crasse, des désirs fous pour tout et d'une émotion. Vous savez bien qu'on peut saluer par une petite larme, voir un sanglot qui se changera en rire quand on sentira le frôlement de l'aile de l'ange du bizarre qui survole souvent ces villes, ces mers, ces têtes de cochons, de chats, de dragons, ces gens quoi. Tous ces gens que vous aimerez d'un amour fraternel, même si vous avez le cœur dur comme la pierre. Brigitte Fontaine va nous surprendre dans ce texte qui parle du thème de la maternité, mais pour une fois, ce sujet est abordé différemment. Rappelons, cette femme enceinte en premier plan, l'autre personnage dans l'ombre, la scène se resserre. Dans le noir paradis où il flotte, l'enfant danse, presque immobile, libre et heureux, comme jamais plus sans doute. Peut-être après la mort, mais on ne sait encore moins. Cette femme enceinte, elle est glorieuse, elle rayonne, comme si elle avait arraché cet enfant au néant, comme si elle l'avait volé. Elle a déjà 32 ans et c'est la première fois. Elle se promène dans les rues comme dans son palais. Elle glisse entre ses esclaves, elle n'a plus le sens de la justice. Les dragueurs n'approchent pas, la route est libre. Une poussière de chaleur monte sur les immeubles gris-orient de la ville. Il y a partout des reflets métalliques qui forment pour cette femme une haie de pierres précieuses et d'esprits gardiens. C'est la première femme enceinte du monde. Avec elle, tout commence. Est-ce la peine de dire qu'elle est belle ? Elle s'assoit à une terrasse et la scène se resserre. Elle croise ses jambes fines et bronzées sous la vaste robe blanche, commande un demi avec un emportement de joie. Un demi. Quelle merveille ! La couleur, le goût, la fraîcheur, l'état où ça vous met. La vie est une fête. À côté d'elle, un peu en arrière, comme une mince adolescente qui serait très marquée, moqueuse et douce, grave et insouciante avec un museau fin sur sa main brune, un pied sur le genou en jean et en chemise souple, une autre femme donc la regarde. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'y pensait pas, elle ne voulait pas, elle ne savait plus et maintenant c'est sans doute trop tard, elle ne sait pas trop. Elle fixe la femme en blanc avec un demi-sourire. Elle la trouve un peu ridicule, mais formidable aussi, impressionnante et finalement sympathique. Elle lui veut beaucoup de bien. Elle a un demi aussi, qu'elle boit à la santé de l'enfant, silencieusement. Pourquoi pas? Elle voudrait que tout se passe bien, que tout continue dans cette euphorie un peu invraisemblable. C'est possible, après tout. Elle vide son demi, et puis elle se met à penser à ce qui pourrait arriver à l'enfant avant la naissance, après la naissance, à la mère. L'enfant pourrait être mort-né, ou venir avant terme, être anormal, non viable. La mère pourrait ne pas supporter l'accouchement. Oh mon Dieu, on ne pourra pas la sauver. Ou bien, plus tard, l'enfant pourrait tomber de son berceau, ou tomber par la fenêtre, ou avoir une méningite. Elle est complètement happée et à chaque chose nouvelle qu'elle vient à penser, elle boit pour conjurer. Elle boit la santé, au bonheur de l'enfant, de la mère. Maintenant, elle est au blanc, sec, c'est plus efficace. Elle en a bu 4 en 3 quarts d'heure. Pendant que la femme en blanc écrit sereinement une lettre, et l'autre pense que c'est à son mari qui est au front. Mais quel front, elle n'en sait rien. Mais il pourrait lui arriver malheur, l'enfant serait alors orphelin à la naissance. Elle boit encore, et à la fin, elle est tellement ivre qu'elle se rend compte confusément qu'elle ne pourra pas conduire pour rentrer. Et elle peut juste se traîner au téléphone pour demander à son copain de venir la chercher. Et quand il arrive, elle est comme une loque. Elle pleure un peu dans son épaule. Elle est absolument incapable d'expliquer ce qui s'est passé. La présence énorme de cette femme enceinte et les affolements qui se sont levés en elle-même si légère d'habitude. Et tandis que la femme en blanc reprend son chemin avec allégresse, dans un sillage de grâce, l'autre, comme un chat mouillé, se laisse emporter, blotti dans le grand bras familier où elle frotte ses cheveux courts avec un peu de gris déjà, mêlé de larmes, et en arrivant dans l'appartement, elle rit. Elle rit parce qu'elle ne sait plus pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle a oublié que c'est son anniversaire, que rien n'est prêt, qu'ils sont déjà là, qu'ils vont arriver, les copains. Beaucoup de ses anciens amants, car elle est fidèle à sa manière. Les amis chers et les copines légères, elle les aime. Elle les embrasse. Elle se fait un bon café fort avec du poivre. Elle se dit que la vie a du bon quelquefois. La terrasse, le café a disparu. Seule en fond de scène apparaît une nouvelle femme, vêtue de noir, qui contraste avec la femme enceinte qui, elle, était vêtue d'une robe blanche vaporeuse. Elle s'approche, elle est chanteuse, elle aussi, bien connue du grand public. Il n'est nullement besoin de la présenter non plus, mais c'est Barbara. Elle aussi veut nous faire part de son choix de vie. Extrait de son œuvre autobiographique, « Il était un piano noir ». J'ai aimé la rencontre avec les hommes de ma vie, la dualité, la complicité, le rire, la quiétude, la séduction, l'impérieux besoin de reconquérir chaque matin, de rêver une vie à deux tout en sachant parfaitement que rien ni personne ne résisterait à mon piano, à mes théâtres, à la route partagée avec d'autres. Ce métier-là, j'aurais aimé le faire comme un sacerdoce, un vrai don de soi, donner de l'amour, je l'ai écrit, je suis une petite sœur d'amour, hop là! Être une petite sœur d'amour, chanter, prendre le voile, tout ça, c'est du pareil au même. Sauf que chanter, monter sur scène en pleine lumière, revêtue de son habit de scène, c'est faire montre d'un grand égocentrisme et d'une belle indécence. Il est vrai que c'est toujours une chose merveilleuse que de gagner sa vie en faisant ce métier. Longtemps, ça ne m'a pas plu de gagner de l'argent tout en chantant. Chanter, pour moi, c'était prendre le voile, sacraliser. J'ai couru, attendu, retrouvé, perdu, aimé, heureuse, cruelle aussi, implacable souvent. Cet état d'amoureuse, je l'ai presque toujours connu. J'en avais besoin pour chanter. Dans ma vie de femme, j'ai échoué. Dans ma vie de mère, j'ai échoué. J'ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé. J'ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J'ai souvent marché la main posée sur mon ventre. Aujourd'hui, je pense que c'était sans doute le prix à payer et que ma vie a été malgré tout belle et intense. Le plateau est à nouveau nu. En croire le chant d'oiseau, nous nous sommes éloignés de la ville. Apparaît alors deux femmes. Celle tenant le panier, c'est la Palatine. L'autre, tenant les verres et une bouteille de vin, ce n'est autre que Colette. La lumière se réchauffe, l'air est doux. Elle s'assied. Colette débouche la bouteille et prend la parole. On est gourmet. Le vrai gourmet se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé, si le beurre est fin et le pain bien pétri. Un bon plat est l'affaire avant tout de modération et de classicisme. Arrière les épices coûtent 5 balles, l'alcool grosse caisse, la sauce jazz. Arrière la goinfrerie, la gloutonnerie et toute autre intempérance. En fait, de plat préféré, je préfère tout ce qui est bon. Tout ce qui fait l'heure des repas, une petite fête des papilles et de l'esprit. Un jour, j'ai l'humeur aux salades, éprise que je suis d'huile pure, fruitée et de vinaigre rose que je fais chez moi. Un jour, la viande est à l'honneur, sous ses formes les moins nocives, saisie sur la braise, poivrée de poivre frais, le noir, celui des Antilles, avec une pincée de sel écrasé, je n'ai pas dit de sel fin. Si l'entrecôte est persillée, si elle a gardé une bordure succulente de graisse, il n'est même pas besoin de beurre. À Paris, d'abord, un bon bistrot n'est jamais le dernier. Mort, il renaît de ses cendres sous la forme des pionniers natifs de la Corrèze, de la crémeuse Normandie, du Périgord noir, de la Provence parfumée d'ail et de frigoulettes. Où me trouvera le milieu du jour? Je ne sais. Devant une grande pinte de lait tiède à la vacherie d'Auteuil? Ben, c'est possible. Mais je serai peut-être près d'un brasero de mon quartier, occupé à gober 6 à 8 clairs, bien froides, arrosés d'un verre de pouilly. Mon cher premier arrondissement est truffé de trésors gastronomiques sans prétention. Le ragoût de mouton y est immuable, égal à lui-même, nappé d'une sauce ni trop courte ni trop longue. Le cassoulet gratine dans ses petites soupières individuelles. Une sorte de caveau à demi-souterrain retourne sans arrêt des crêpes. Le pied de cochon, le pied de mouton rivalisent de succulence. Saint-Denis et Saint-Martin sont propices à la belle sole épaisse, au poulet embroché que lèchent les hautes flammes. Il y a aussi la cuisine des pêcheurs et des matelots. Le poisson s'y fait hors pair, noir dedans, blanc dedans. Qu'à sa peau fendillée adhère des brins calcinés de menthe, de thym, de fenouil, rien ne lui manquera. Pour vous avoir entretenu de cuisine rudimentaire, je ne suis pas au bout de mon rouleau. Savez-vous faire la galette à l'écume de beurre? Aimez-vous le chocolat rôti? Et la côte de veau aux anchois? Fabriquez-vous le lait d'amande? Buvez-vous en hiver un certain vin blanc chaud? J'ai été très bien élevée. Je dirais que je n'avais pas plus de 3 ans lorsque mon père me donna à boire un plein verre à liqueur d'un vin mordoré envoyé de son midi natal, le muscat de Frontignan. Coup de soleil, choc voluptueux, illumination des papilles neuves. Ce sacre me rendit à jamais digne du vin. À l'âge où on lit à peine, j'épelais goutte à goutte des bordeaux rouges anciens et légers, d'éblouissants d'Ikem. Le champagne passe à son tour, murmure d'écume, perle d'air bondissante à travers les banquets d'anniversaire et les premières communions. Il arrosa les truffes grises de la puisée. C'est entre la 11e et la 15e année que se parfit un si beau programme éducatif. Ma mère déterra une à une de leur sable sec des bouteilles qui vieillissaient sous notre maison, dans une cave, Dieu merci, intacte. J'envie quand j'y pense la gamine privilégiée que je fus. Pour accompagner au retour de l'école mes encas modestes, côtelettes, cuisses de poulet froid, ou l'un de ces fromages durs, passés sous la cendre de bois et qu'on rompt en éclats comme une vitre. J'eus des châteaux La Rose, des châteaux Lafitte, des Chambertins et des Cortons qui avaient échappé en 70 aux Prussiens. Certains vins défaillaient, pâlis et parfumés encore comme la rose morte. Il est reposé sur une lie de tanin qui teignait la bouteille, mais la plupart gardaient leur ardeur distinguée, leur vertu roborative. Oh, le bon temps! J'ai tari le plus fin de la cave paternelle, godet à godet, délicatement. Ma mère rebouchait la bouteille entamée et contemplait sur mes joues la gloire des crus français. L'eau, c'est pour la soif. Le vin, c'est selon sa qualité et son terroir un tonique nécessaire, un luxe, l'honneur des mets. N'est-il pas lui-même une nourriture? Oui, le bon temps, que celui où quelques bas bourguignons de mon clocher, réunis autour d'une fiole habillée de poussière et de soie d'araignée, pinçaient les doigts, en baisaient sur la bouche et disaient déjà « Mouah, un nectar !» Il est préférable à l'esprit et au corps, croyément, de goûter le vin chez lui, dans un paysage qui l'enrichit. Vin genêt, tâtés dans le jour bleu de chais, fillettes angevines, décoiffées sous une tonnelle poudrée à blanc par un après-midi d'été bien orageux. Reliquats d'émouvants découverts dans un vieux cellier qui ignore ses richesses ou les oublie. D'un tel Célie en Franche-Comté, je fis la rencontre d'un prince enflammé, impérieux, traître, comme tous les grands séducteurs, le Jurançon. Emplis donc, vin, ce verre que je tends, verre fin et simple, bulle légère, où jouent les feux sanguins d'un grand ancêtre de Bourgogne, la topaze d'Ikem, le rubis balai, un peu mauve parfois, du Bordeaux, au parfum de violette. Colette, ou plutôt Sidonie Gabrielle Colette, est une des femmes de lettres françaises les plus connues. Romancière, mais elle fut également mime, actrice, journaliste et même publicitaire. Épicurienne, touche à tout, elle s'émancipera de la figure de son mari Willy pour écrire en son propre nom, deviendra lesbienne, fréquentera les cabarets et les caboulots pour hanter encore aujourd'hui les jardins du Palais Royal. Mais revenons justement à notre jardin. J'ai comme l'impression que, pendant ce discours très appétissant de notre Colette, son interlocutrice n'écoute pas. Elle ne paraît pas à son aise. Elle, c'est la Palatine. Élisabeth Charlotte de Bavière, la belle-sœur de Louis XIV. Elle fut mariée à Monsieur le frère du roi, que l'on surnommait la Libellule. Préférant à sa femme la cour de ses mignons, il aimait se pavaner dans les jardins vêtu des plus beaux accoutrements de l'époque. Elle, en face, était surnommée le sanglier de Versailles. Elle n'est pas française, elle vient du Palatinat, une région à l'ouest de l'Allemagne. Habituée dès l'enfance à un mode de vie beaucoup plus simple, elle a dû se plier avec beaucoup de difficultés à Madame l'Étiquette. Grande plume du grand siècle, elle écrira tout au long de sa vie plus de 60 000 lettres qui décrivent pour beaucoup sa difficulté d'adaptation et qui parfois traitent des plus simples problèmes. Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chiez donc tout votre chien dessous. Nous n'en sommes pas de même ici où je suis obligée de garder mon étron pour le soir. Il n'y a point de frottoir aux maisons du côté de la forêt. J'ai le malheur d'en habiter une et par conséquent le chagrin d'aller chier dehors, ce qui me fâche. Parce que j'aime chier à mon aise. Et je ne chie pas à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. Item, tout le monde nous voit chier. Hein. Il y passe des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des abbés, des Suisses. Vous voyez par là que nul plaisir sans peine, et que si l'on n'en chiait point, je serais à Fontainebleau comme le poisson dans l'eau. Il est très chagrinant que mes plaisirs soient traversés par des étrons, et je voudrais que celui qui a le premier inventé de chier ne puisse chier lui et toute sa race à coups de bâton. Comment, mordi, qu'il faille qu'on ne puisse vivre sans chier? Soyez à table, avec la meilleure compagnie du monde, qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier. Soyez avec une fille ou femme qui vous plaise, qu'il vous prenne envie de chier, il faut aller chier ou crever. Un maudit chier, je ne sache point de plus vilaine chose que de chier. Voyez passer une jolie personne, bien mignonne, bien propre. Vous vous récriez, ah, que cela serait joli, cela ne chiait pas. Je le pardonne à des crocheteurs, à des soldats, aux gardes, à des porteurs de chaises, et à des gens de ce calibre-là. Mais les empereurs chient, les impératrices chient, les rois chient, les reines chient, le pape chient, les cardinaux chient, les princes chient, les archevêques et les évêques chient, les généraux d'ordre chient, les curés et les vicaires chient. Avouez donc que le monde est rempli de vilaines gens. Car enfin, on chie en l'air, on chie sur la terre, on chie dans la mer. Tout l'univers est rempli de chieurs et les rues de Fontainebleau de merde. Principalement de la merde de Suisse. Car ils font des étrons gros comme vous, madame. Si vous croyez baiser une belle petite bouche avec des dents bien blanches, vous baisez un moulin à merde. Tous les mets les plus délicieux, les biscuits, les pâtés, les tourtes, les farcis, les jambons, les perdrix, les faisans, le tout n'est que pour faire de la merde mâchée. Après cet aveu naturel, la Palatine sort de scène, s'en va rejoindre Versailles, Fontainebleau et les intrigues de la cour. Colette reste, se grise au soleil, ouvre un recueil de Pauline de Metternich. Cette femme de l'ambassadeur d'Autriche sut faire oublier sa laideur, un nez en trompette et des lèvres en rebord de peau de chambre, a-t-on dit d'elle. Par son intelligence, son élégance et ses extravagances, elle fut la vedette de la cour impériale et de la vie mondaine du Paris du Second Empire. Ses souvenirs permettent d'observer ses contemporains et de dresser un portrait de cette période dont elle fut l'une des étoiles. Colette imagine alors le faste de ces soirées incroyables. Elle s'endort.
«
encore à l'une de ces fêtes que Madame de Castiglione fit son apparition au Salambeau. Costume composé par elle, d'après la description de cette héroïne du roman de Flaubert, qui faisait sensation à ce moment-là. Qu'on juge de notre étonnement en découvrant que la dame en question avait les pieds nus, ou du moins recouverts d'un maillot de soie tellement fin que c'était tout comme. Mais ce qui était plus surprenant encore, c'est que la tunique en velours noir qu'elle portait était fendue jusqu'à la taille. Et qu'à certains mouvements, elle s'entr'ouvrait et laissait voir la jambe de haut en bas. Eh bien, malgré notre indignation, je dois vous avouer que la beauté sculpturale de celle qui se montrait ainsi était si complète que cette tenue n'avait rien d'indécent, on eût dit une statue animée. Ses magnifiques cheveux ruisselaient sur ses épaules et descendaient jusqu'aux genoux. Ses bras, ornés de bracelets représentant des serpents en or, étaient tenus jusqu'à l'épaule et les doigts de pied étaient couverts de bagues. Jamais on n'a vu d'apparition plus curieuse, plus fantastique. Mais quelle incroyable beauté! Colette se réveille, achève la bouteille, le soir tombe. Elle s'en va rejoindre Paris, ses faubourgs, nous la suivons. De 1900 à l'an 2000, il n'y a qu'un pas. Des allées du Palais Royal où venaient s'encanailler les hommes, à la rue Saint-Denis des Plaisirs, il n'y a qu'un pas. La nuit est tombée. Des néons roses et rouges s'allument sur scène, allure de pipe-chaud d'un pigalle moderne. Apparaît alors une féministe bien connue de notre époque, Virginie Despentes. Cigarette aux lèvres, contre le mur, elle toise le public. La première fois que je sors en jupe courte et en talons hauts, la révolution tient en quelques accessoires. Vous n'avez rien changé, mais quelque chose en dehors a bougé, et plus rien n'est comme avant, ni les femmes, ni les hommes. Sans que vous soyez bien sûr d'aimer ce changement, ni d'en comprendre toutes les conséquences. Les Américaines, quand elles témoignent de leur expérience de travailleuse du sexe, aiment à employer le terme « empowerment », une montée de puissance. J'ai tout de suite aimé l'impact que ça me donnait sur la population masculine, avec le côté exagéré, limite grosse farce, changement de statut notoire. J'étais jusqu'alors une meuf quasiment transparente, cheveux courts et baskets sales. Brusquement, je devenais une créature du vice, trop classe. Ça faisait penser à Wonder Woman qui tournicote dans sa cabine téléphonique et en ressort en super-héroïne. Toute cette affaire, c'était marrant. Mais j'ai aussi tout de suite craint cette importance, justement, qui dépassait mon entendement, mon contrôle. L'effet que ça faisait à beaucoup d'hommes était quasiment hypnotique. Entrer dans les magasins, dans le métro, traverser une rue, s'asseoir à un bar... Partout attirer les regards d'affamés, être incroyablement présente. Détentrice d'un trésor furieusement convoité, mon entrecuisse, mes seins, l'accès à mon corps prenait une importance extrême. Il n'y a pas que les obsédés à qui ça faisait de l'effet. Ça intéresse presque tout le monde, une femme qui prend l'allure d'une pute. J'étais devenue un jouet géant. En tout cas, une chose était sûre, je pouvais faire le boulot. Finalement, aucun besoin d'être une méga bombasse ni de connaître des secrets techniques insensés pour devenir une femme fatale. Il suffisait de jouer le jeu de la féminité. Et personne ne pouvait débarquer « Attention, c'est une imposture !» puisque je n'en étais pas une, pas plus qu'une autre. Ce processus m'a fascinée au début. Moi qui m'étais toujours contrefoutue des trucs de fille, je me suis passionnée pour les talons aiguilles, la lingerie fine et les tailleurs. Je me souviens de ma propre perplexité les premiers mois quand je me voyais dans les vitrines. C'est vrai que ça n'était plus moi, cette grande pute à jambes allongées par les talons hauts. La fille timide, épaisse, masculine, disparaissait en un clin d'œil. Même ce qui était masculin en moi, comme ma manière d'avancer super vite et avec assurance, devenait des attributs d'hyper-féminité une fois la tenue endossée. Ça m'a plu, dans un premier temps, de devenir cette autre fille-là. Comme de faire un voyage, sur place mais dans une autre dimension. Immédiatement, dès le costume d'hyperféminité enfilé, changement d'assurance. Comme après une ligne de coke. Bon, ensuite, comme la coke, c'est devenu plus compliqué à gérer. Elle sort, doucement. Virginie Despentes s'en va. Apparaît alors une jeune lavandière en déshabillé, à la manière des maisons closes. Elle tient dans sa main un grand panier en osier. Elle tend à chaque bout de la scène un fil, comme un fil à linge. Mais elle n'étend pas son linge. Elle en sort des fanions de toutes les couleurs. Elle sort. C'est donc au sommet de Lhassa que nous arrêterons pour ce premier voyage. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour entendre et découvrir encore d'autres femmes de lettres.